Ecclésiaste 7, verset 14. Au jour du bonheur, jouis le bonheur. Au jour du malheur, réfléchis. Car Dieu a fait l'un et l'autre, si bien que l'homme ne peut rien découvrir de ce qui doit lui arriver. Comme vous le savez, une catastrophe sans précédent, du moins dans nos temps modernes, frappe le monde entier avec ce virus et cette maladie, le Covid-19. Il faut remonter à 1918-1919 pour avoir une telle pandémie avec entre 25 et 50 millions de morts à cette époque-là. Et chaque jour, on égrène un compte macabre. Tant de morts aux USA, tant de morts en Chine, tant de morts en Espagne, tant de morts en Italie et chez nous. Et comme tout le monde, nous sommes bouleversés, attristés. Et nous nous posons des questions. Que penser de cela en tant que chrétien? Comment comprendre cela? Nous comprenons un peu plus facilement lorsqu'un désastre se produit suite à l'action des hommes. Les guerres, les attentats, une usine qui explose. C'est assez facile d'expliquer que cela vient de la méchanceté, de la cupidité, de l'avidité, de la soif de puissance, de l'incompétence des hommes. Bref, que cela vient du péché des hommes. Mais lorsqu'il s'agit d'un virus, un être invisible qui n'a pas de volonté propre, qui surgit et qui dévaste tout, comment comprendre? Nous qui croyons que Dieu est amour, comment pouvons-nous expliquer cela? Car dire que Dieu est amour, ça veut dire qu'il aime sa création, qu'il protège les hommes, les femmes et les enfants qui habitent cette création. C'est le Dieu, dit Jésus, qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, et qui fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. On trouve ça en Matthieu 5, verset 45. Donc c'est le Dieu qui veille sur sa création tout entière. C'est donc un problème difficile qui se pose à nous. D'autant plus difficile que les moqueurs ne se gênent pas pour dire « Alors, où donc est ton Dieu ?» Comme dans le psaume 42. Et ce problème difficile, il a été un jour posé à Jésus. On trouve ça dans l'évangile de Luc au chapitre 13. Luc 13, verset 1. En ce temps-là, quelques personnes vinrent raconter à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ?»« Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. » Ou bien, ces 18 hommes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Voilà une réponse surprenante, qui à première vue ne nous satisfait pas. Car Jésus ne semble pas répondre à la question et ne pas dire le pourquoi de tous ces malheurs. Les Galiléens dont il parle, c'était certainement des Zélotes, un groupe politico-religieux qui contestait la suprématie de Rome, qui contestait aussi les prêtres juifs en place à cette époque. C'est pourquoi ils offraient des sacrifices en dehors du temple. Et Jésus aurait pu répondre simplement une phrase comme nous savons faire, une phrase qui explique, vous savez, ils l'ont bien cherché, ou alors ils sont morts en glorieux combattants, ou alors ils auraient mieux fait de ne pas prendre les armes contre les Romains, mais de rechercher d'abord le royaume de Dieu. Toutes ces réponses, c'est peut-être ce que nous aurions dit. Mais Jésus va plus loin. Il veut savoir ce que pensent ses interlocuteurs. Et il pose des questions. Croyez-vous qu'ils étaient de plus grands pécheurs que les autres? N'est-ce pas votre façon de comprendre le problème d'habitude? Et du coup, il pousse encore le bouchon un petit peu plus loin. Et ceux qui sont morts par accident, qu'en dites-vous? et la seule réponse qu'il donne semble ne pas en être une. Elle ne dit pas le pourquoi de la catastrophe. Elle ne nous apprend rien sur les causes, si ce n'est que les personnages n'étaient pas plus coupables que la moyenne. Elle ne nous apprend rien, mais elle attire notre attention sur une réalité. Tous, nous mourrons un jour, le jour où Dieu l'aura voulu. Nous devons le savoir, en tirer les conséquences, être prêts. Alors je vous propose une réflexion sur ce texte avec 5 pistes de réflexion. La première piste, c'est que Jésus ne donne pas d'explication. La deuxième piste, c'est que même si Jésus n'en donne pas, nous pouvons en chercher quelques explications. La troisième piste, c'est comment agir face à cela. La quatrième piste nous rappelle que de toute façon, nous devons tous mourir un jour. Et la cinquième piste nous appelle à la conversion. Donc, première piste, Jésus ne donne pas d'explication. Nous aurions bien aimé avoir une explication. Et Jésus n'en donne pas. Il n'explique pas pourquoi ces malheurs sont arrivés. Cela nous montre que la priorité n'est pas là, que nous n'avons pas besoin de comprendre pour agir, pour prendre les bonnes décisions. C'est ce que Jésus explique dans notre texte. Et il ne donne pas la cause de tout cela, mais il commande la repentance. Alors nous aimerions bien pouvoir donner des explications aux gens autour de nous qui nous posent des questions, en pensant parfois que cela va les convaincre de placer leur confiance en Dieu. Mais est-ce que cela serait vraiment convaincant? Rien n'est moins sûr. Je vous propose de lire un texte dans Osée, au chapitre 11. Osée chapitre 11. Quand Israël était enfant, je l'ai aimé, alors j'ai appelé mon fils à sortir de l'Égypte. D'autres l'ont appelé, et il s'est éloigné à cause d'eux. C'est au Baal qu'il sacrifie, aux idoles taillées qu'il offre de l'encens. Pourtant, c'est moi qui, pour ses premiers pas, ai guidé Éphraïm, qui l'ai porté dans mes bras. Mais il n'a pas voulu savoir que moi je prenais soin de lui. C'est par des liens d'une tendresse toute humaine et des cordes d'amour que je le conduisais, et j'étais pour lui comme quelqu'un qui porte un nourrisson contre ses joues pour lui tendre à manger. Puisqu'ils ont refusé de revenir à moi, ils ne retourneront pas en Égypte. Ce sera l'Assyrie qui régnera sur eux. Le destin de notre monde est semblable à celui du peuple d'Israël. Dieu aime ce monde, mais ce monde obéit à d'autres voies, à d'autres divinités. Malgré tout, Dieu prend soin de ce monde et habituellement le guérit. Mais notre monde ne s'en rend même pas compte. Il ne se rend pas compte de la tendresse habituelle de Dieu à son égard. Il ne s'en aperçoit que lorsque cette guérison s'arrête. Alors, pourquoi le coronavirus maintenant? Et pourquoi telle ou telle personne est atteinte? Je n'ai pas la réponse. Mais je sais que cela doit nous apprendre à être sensibles, remercier Dieu, et à être sensibles à la tendresse, à la bonté habituelle de Dieu, même si nous ne la voyons plus, tellement justement elle est habituelle. La deuxième piste que nous voulons suivre, c'est de nous poser la question, est-ce qu'il faut pour autant renoncer à trouver quelque explication? Jésus ne donne pas d'explication, mais nous avons la parole de Dieu tout entière, le Saint-Esprit, notre compréhension. Est-ce que nous pouvons chercher quelques lueurs? En tout cas, l'attitude de Jésus doit nous appeler à la prudence et à l'humilité, si nous recherchons une explication, nous sommes déjà prévenus qu'il n'y a pas de réponse seule, simple, évidente à nos interrogations. Alors pourquoi le mal? Pourquoi ce mal qui frappe un aussi grand nombre de personnes, avec, parmi elles, des croyants fidèles au Seigneur, notamment les nombreuses personnes décédées parmi les croyants qui étaient réunis dans l'église de Mulhouse? Si nous ne pouvons pas tout comprendre, cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas avoir quelques lueurs. Déjà, nous pouvons remarquer que, à cause du péché de l'homme, la création tout entière souffre, pas seulement l'homme, mais la création tout entière. Déjà en Genèse 3, tout de suite après le premier péché, Dieu constate et il dit à l'homme, « À cause de toi, le sol est maudit. » La création toute bonne de Dieu est détraquée, abîmée, dévoyée par le péché de l'homme. Et cela est confirmé par ce grand texte de Romains 8 à partir du verset 20. Romains 8, verset 20. La création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance, c'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption qui l'a servie, pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons bien en effet. Jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit Saint comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur, en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptif de Dieu, quand notre corps sera délivré. N'accusons donc pas Dieu de ce malheur. Ce malheur est une des multiples conséquences du refus de l'homme de se laisser conduire par Dieu et de sa préférence pour les conseils du diable, de l'adversaire. Habituellement, les virus se tiennent à peu près tranquilles, car Dieu le veut ainsi. Il est triste de penser que nous nous apercevons des bontés de Dieu seulement lorsqu'elles nous sont retirées. Notre Dieu agit. Il agit pour que, malgré les conséquences du péché des hommes, la création ne se dégrade pas trop. C'est ce que nous dit Hébreux 1, verset 3, où il est question de Jésus, Fils de Dieu, qui soutient toute chose par sa parole puissante. Si Jésus doit ainsi soutenir toute chose, c'est parce que ces choses chancellent. C'est ce qui a été appelé, le mot n'est pas biblique, mais l'idée est biblique, ce qui a été appelé la providence de Dieu, la bonté dont tout le monde bénéficie sans le savoir et sans dire merci. Et pourquoi Jésus agit-il ainsi pour limiter les conséquences du mal sur notre monde? Parce qu'il veut que notre monde subsiste encore un peu de temps. Le temps où la patience de Dieu s'exerce, comme l'explique l'apôtre Paul dans sa deuxième épître. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard. Car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait, au contraire, que tous parviennent à se convertir. La troisième piste, que faire? Nous devons remercier Dieu quand tout va bien, prier et confesser nos fautes quand cela va mal. Et oui, pensons donc à remercier Dieu pour toutes les fois où l'humanité aurait pu périr et où, par sa grâce, elle a survécu. Nous avons l'exemple du déluge, où Dieu a failli détruire l'humanité entière. Et puis, certainement à d'autres reprises, il y a eu des épidémies, il y a eu des conditions telles que l'humanité aurait pu périr. Mais Dieu l'a empêché. Donc pensons à remercier Dieu pour sa patience, pour ses dons habituels, pour sa providence, pour sa grâce qui se déverse sur notre monde, même lorsque notre monde n'en est pas digne. Et puis, que pouvons-nous faire de plus? Eh bien, c'est ce que nous invite à faire Salomon, et on peut lire ceci dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 6, verset 28. Quand la famine ou la peste sévira dans le pays, quand les céréales seront atteintes de maladies, quand surviendra une invasion de sauterelles ou de criquets, ou quand ses ennemis assiégeront ton peuple dans son pays, dans les villes fortifiées du pays, quand quelque maladie ou quelque malheur s'abattra sur lui, si, considérant son malheur et sa souffrance, chacun tend les mains vers ce temple, veuille exaucer du ciel, du lieu où tu demeures, les prières et les supplications que t'adressera tout homme ou tout ton peuple Israël. Pardonne-leur et traite chacun selon sa conduite, puisque tu connais le cœur de chacun. En effet, toi seul, tu connais le cœur des humains. De cette manière, ils te révéreront et se conduiront comme tu le leur as prescrit tout le temps qu'ils vivront sur l'étendue du territoire que tu as donné à nos ancêtres. Dans cette prière de Salomon, qui est évidemment adressée à Dieu, il est question de plier les genoux, de tendre les mains, d'implorer le Seigneur, de le supplier pour que la famine, pour que la peste, pour que la maladie s'arrête. Nous devons donc demander pardon. Pardon pour les fautes de l'humanité entière et pour nos propres fautes. C'est ce qu'ont fait de grands personnages bibliques qui se sont inclinés devant Dieu. Alors qu'eux avaient une conduite juste, ils se sont inclinés en demandant pardon. Pardon pour tout le peuple. Daniel, Néhémie par exemple. Et demander humblement au Dieu Tout-Puissant la fin de l'épreuve. Notre quatrième piste est un peu décourageante. C'est de nous dire que les circonstances de la mort de certains ne doivent pas nous cacher une vérité primordiale. Nous allons tous mourir. C'est une chose qui me frappe lorsqu'on écoute les informations et le décompte macabre des morts aux USA ou dans d'autres pays. Les gens, les journalistes, semblent penser qu'il y a là quelque chose de nouveau, de scandaleux. Et ils oublient que, normalement, habituellement, à peu près 160 000 humains meurent chaque jour dans le monde. Sans doute un peu plus en ce moment. Mais c'est un phénomène normal. Et là encore, nous retrouvons la faute de notre ancêtre, de notre premier ancêtre Adam. Et Paul, dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 12, nous dit « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. » Nous devons donc comprendre que de toute façon, nous allons tous mourir. Et puisque nous comprenons cela, nous pouvons vivre en conséquence, avec beaucoup plus de modestie, sachant que devant Dieu, nous ne sommes qu'une fleur des champs qui va sécher et disparaître. Cette crise secoue l'arrogance des humains qui, ces dernières années, avec les progrès de la technologie, se prenaient pour Dieu. On commençait même à parler de transhumanisme. Vous savez, ce pseudo-espoir de l'humanité, enfin plus exactement de gens très riches, de ne pas mourir. Sous l'effet conjugué des progrès de la médecine, de l'informatique et de la robotique. Quelle folie! Alors que le seul espoir réel, c'est de bénéficier de la grâce de Dieu pour entrer dans la vie éternelle. Et ceci nous conduit à notre cinquième piste. Puisque vous allez de toute façon mourir, il faut vous convertir. Vous tournez vers le Seigneur. Accepter son pardon offert grâce à la croix de Jésus. Dans le livre des Actes, au chapitre 4, verset 12, il est dit que le salut ne se trouve en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Nous devons exhorter ceux qui ne connaissent pas le Seigneur à se tourner vers lui. Et le faire, même si leurs questions sur le malheur actuel ne trouvent pas de réponse complète. Ne désespérons pas si nos réponses sont insuffisantes. Nous le savions dès le départ. Ce n'est pas la piste qu'avait suivie Jésus. Lui, il a préféré aller à l'essentiel. Il y a des malheurs, bien sûr, mais si vous ne vous repentez pas, si vous ne vous convertissez pas, tôt ou tard, vous périrez de la même manière. Donc pour conclure, je vous propose de résumer ce que nous avons vu. Cinq pistes. La première nous dit que le plus important, ce n'est pas de comprendre pourquoi il y a des malheurs. La deuxième nous dit que même si ce n'est pas très important, même si c'est que partiel, nous pouvons avoir quelques éléments d'explication. Parmi ces éléments, la création souffre et se dégrade à cause du péché des hommes. Pour freiner cette dégradation, pour soutenir la création, Jésus agit pour maintenir cette création. Et il le fait pendant le temps de la patience de Dieu. Cette patience pour que les hommes se tournent vers lui. Alors si nous ne pouvons pas comprendre, notre troisième piste nous disait, mais comment agir? D'abord en demandant pardon au Seigneur, en le priant d'arrêter ce fléau et en n'oubliant pas de lui dire merci pour tout ce qui va bien. Notre quatrième piste, c'était de prendre conscience que de toute façon, tôt ou tard, nous allons mourir et qu'il est important de le savoir et de nous y préparer, c'est-à-dire de nous tourner vers le Seigneur pour préparer la suite. Et la cinquième piste, c'est justement appeler à la conversion de tous nos proches, se tourner vers lui, accepter sa grâce. Pendant qu'il est encore temps. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde pendant toute cette semaine, qu'il vous protège et qu'il vous donne d'être toujours reconnaissant pour tout ce qu'il fait pour nous.